sur le thème du déracinement en 2000. Mais cette année, ça n'était pas sur le déracinement.
Donc j'ai raison de me taire parce que je
dis... Non, vous donnez le point de départ, c'est très bien. Vous donnez, cette année, c'était l'autoportrait, voilà.
J'ajouterais quand même que je suis aussi professeur, bien que je sois professeur défroqué, on va dire, mais enfin, depuis une dizaine d'années seulement. Donc j'ai quand même encore quelques souvenirs du terrain. Oui, alors là, on était dans le cadre précis de la classe et des mises en œuvre d'écrits. Hier, avec Marie-Claude Panlou, elle nous a parlé des terrains sauvages et des écrits personnels. Mais là, on va se retrouver exactement entre les deux, dans cette espèce de no man's land, qui n'est ni la classe, ni l'écrit libre, qui est le partenariat. Alors, partenariat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'idée de faire rencontrer un projet d'artiste, un projet de créateur, avec un projet pédagogique. Et l'idée que les élèves soient amenés à partager le projet d'un artiste et que l'artiste soit amené à partager un projet pédagogique d'une équipe, d'un groupe classe ou d'un atelier à l'intérieur d'un établissement. Alors ça s'appelle l'action culturelle. Et il faut savoir que cette action culturelle, elle a connu de très beaux jours à l'époque du plan langue, dont vous avez peut-être quelques souvenirs, et que aujourd'hui, cette action culturelle a plus ou moins disparu de certaines académies, faute de moyens ou par des choix, et dans d'autres académies, au contraire, elle a été valorisée. Bon, il y a une certaine inégalité. Alors pourquoi, pour être très très bref, vous savez qu'il y a un monstre tentaculaire qui s'appelle la LOLF, la loi de finances, qui a bouleversé complètement l'organisation des services académiques, des financements, que cette LOLF a été interprétée dans certaines académies par ce qu'on appelle la globalisation, hein, je pense que monsieur l'inspecteur va savoir de quoi je parle, c'est-à-dire donner une autonomie financière aux établissements, leur donner un budget qu'ils gèrent eux-mêmes, et dans ce budget qui répond à un projet d'établissement, il y a un volet culturel dans le projet d'établissement. Alors ce volet culturel, dans certaines académies, par souci d'autonomie, chaque établissement le gère comme il veut, et en gros ne rend compte à personne. Dans d'autres académies, on a pensé qu'il fallait garder un pilotage académique, c'est le cas de l'Académie d'Aix-Marseille. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, par souci de territorialité, c'est-à-dire chez nous, par exemple, nous avons une académie qui est à la fois très urbaine, avec des villes comme Marseille, comme Avignon, comme Aix-en-Provence, et par ailleurs très rurale, avec les départements des Alpes, par exemple, ou du Vaucluse. L'idée, c'est qu'un enfant à Gap ou à Sisteron puisse avoir la même ouverture culturelle qu'un enfant de Marseille ou d'Avignon. Et pour ce faire, il est évident que un pilotage académique permet d'équilibrer un petit peu les choses. Alors c'est pour ça que je me suis permis de vous présenter l'action dont on va parler, qui est une action. Moi, je ne vais parler que de partenariat. Hein. Partenariat, ça veut donc dire intervenant culturel. Et s'il y a partenariat intervenant culturel, il y a bien sûr un coût. Et le problème, c'est qui paye. Si on globalise, comme c'est fait dans certains établissements, dans certaines académies, et que, pour être un peu caricatural, pour schématiser, quand un chef d'établissement a un budget, et que dans ce budget, il a le choix entre donner 2 heures de maths supplémentaires aux élèves de seconde ou financer un atelier théâtral, vous voyez ce qui se passe. Donc il y a peu de chances que l'atelier théâtral subsiste. Donc c'est pour ça que dans l'Académie d'Aix-Marseille, nous avons la chance d'avoir un recteur qui a préféré garder le budget de l'action culturelle dans un pilotage académique. Et c'est pour ça que ce que je vais vous présenter, ça va vous paraître un petit peu prosaïque par rapport à ce qu'on a entendu les jours précédents. Je vais vous parler de finances, je vais vous parler de chiffres, parce que ces actions-là ont un coût. Et j'y pensais en écoutant ce qui se passait dans cette école qui est tout à fait remarquable et on était très admiratifs. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça se passe pas que dans une école. C'est que tous les enseignants puissent avoir cette possibilité. S'il n'y a pas un enseignant particulièrement doué ou particulièrement ouvert, ben, qu'il puisse faire appel à un partenariat culturel et qu'on lui donne les moyens. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'Académie d'Aix-Marseille. Alors c'est pas du tout parce que je voudrais vous montrer cette chose-là de façon exemplaire, simplement pour vous dire que c'est possible. Voilà. Donc là vous avez la présentation de la DAC. Donc ce que nous essayons de maintenir dans notre Académie, c'est cette démarche de projet. Démarche de projet, ça veut dire que nous faisons des appels à projets et que nous proposons pour réaliser ces projets des dispositifs que vous connaissez peut-être déjà ou vous reconnaissez. Ces dispositifs sont maintenus chez nous, vous allez voir, à une certaine échelle. Ils ont complètement disparu ailleurs et parfois ils sont partiellement maintenus. Ces dispositifs partenariaux, donc, ce sont tous des dispositifs qui permettent de travailler avec des intervenants culturels ou des artistes. Ils sont soit financés totalement par l'Éducation nationale, soit cofinancés par, avec la DRAC ou avec des collectivités territoriales, puisque chez nous, nous avons passé pas mal de conventions avec la région, avec les conseils généraux, ce qui a été d'ailleurs un vrai chemin de croix, hein, ce travail-là. Mais enfin, il est fait. Donc là, je vous ai énuméré rapidement les dispositifs, je ne vais pas m'attarder. Les ateliers de pratique artistique, qui sont quand même ce qui coûte le plus cher et qui est le plus représentatif. Est-ce que je suis redondant ou est-ce que vous connaissez déjà ces choses-là ou pas ? Bien, alors l'atelier de pratique artistique, son avantage, c'est qu'il fait appel à des élèves volontaires de l'ensemble de l'établissement. Ce n'est pas du tout le groupe classe. Et le partenaire, dans ce cas-là, chez nous, est payé complètement par la DRAC. Donc ce sont des cofinancements, ce qui justifie d'ailleurs qu'il y ait une expertise conjointe DRAC-Académie et bien ce pilotage académique. Le projet culturel ressemble beaucoup à l'atelier de pratique, sauf que dans ce cas-là, le financement est totalement éducation nationale et que les élèves ne sont pas forcément des élèves volontaires, mais ça peut être un groupe classe ou de plusieurs classes. La classe APAC, chez nous, elle est réservée au lycée professionnel. Dans ce cas-là, c'est un intervenant culturel qui accompagne une équipe d'enseignants et toute une classe pendant toute l'année et qui participe au projet pédagogique de l'ensemble de la classe et qui propose évidemment son projet de création. Classe culturelle et classe patrimoine, alors, sont des dispositifs qui existent surtout dans le premier degré. C'est simplement une classe qui a un projet particulier, par exemple d'archéologie pour la classe culturelle ou patrimoine, ou classe culturelle, un projet par exemple d'écriture. Très rapidement, le fonctionnement de la DAC, donc définir des axes prioritaires académiques qui déclinent souvent les axes prioritaires nationaux. On va voir par exemple la maîtrise de la langue ou l'environnement. Élaborer un programme d'action au niveau académique. Donc il s'agit bien de propositions qui sont faites aux établissements, propositions qui peuvent être thématiques. Par exemple, l'année dernière, à Aix-Marseille, on a beaucoup travaillé sur Cézanne. Actuellement, on travaille sur un thème qui s'appelle « Mon école, mon quartier, ma ville ». On va proposer l'année prochaine un thème sur la mémoire et l'identité. Donc, ces propositions thématiques ne sont pas des passages obligés. Ça veut dire simplement que lorsque l'on fera l'expertise des projets, ces projets-là seront peut-être favorisés par rapport à d'autres projets parce qu'ils rentreront dans cette politique académique. Proposer un outil d'information, un plan de formation. Alors ça, c'est important puisque, en accompagnement de tous ces dispositifs, nous proposons dans le PAF, dans le plan d'action et de formation, des stages, des modules qui correspondent tout à fait à ces dispositifs et qui permettent de les accompagner. Donc vous en verrez tout à l'heure quelques exemples. Et ces propositions ne sont différentes des propositions de l'UFM. C'est-à-dire que ce sont des stages plutôt de pratique que d'apprentissage, hein, dans la pédagogie. Alors bien sûr, impulser, accompagner, évaluer et valoriser les actions inscrites dans le projet d'établissement. Alors on a quand même toujours référence au projet d'établissement. Les identifier et articuler avec les enseignements obligatoires et optionnels. Alors ça, je peux dire heureusement, hein, bien sûr, on ne perd pas de vue les enseignements. Alors là, vous avez les différents domaines dans lesquels nous fonctionnons. Ils sont ici classés par ordre alphabétique et pas par ordre d'importance. Donc ce sont à peu près tous les domaines de la création artistique. La lecture, écriture figurent au milieu de la liste. Alors je parlerai tout à l'heure du lien lecture-écriture. Là, je vous donne l'adresse, si vous voulez communiquer avec nous, de notre site académique, où figurent toutes les actions et la façon dont elles sont ordonnées. Si vous retenez cette adresse, sachez que pour aller dans l'action culturelle, vous devez ensuite chercher dans la page d'entrée le mot pédagogie. Et en cliquant sur le mot pédagogie, vous verrez la proposition action culturelle. Et en cliquant sur l'action culturelle, vous verrez tout ce qui se passe dans l'académie. Alors, quelques chiffres pour vous montrer que tout cela a un coût. Donc, en 2006, en collège et lycée, donc je ne vous ai pas porté ici de statistiques concernant le primaire, nous avons 187 ateliers artistiques, en sachant qu'un atelier artistique s'est financé à 1 500 euros pour ce qui est, je vous donne des chiffres, c'est prosaïque, excusez-moi, pour ce qui est de l'intervention, et 72 heures supplémentaires qui sont distribuées aux enseignants. Donc 187 ateliers, 900 projets culturels, soit un équivalent de 1 million d'euros qui sont investis dans cette action culturelle. Vous avez là un petit tableau qui présente les différents domaines et leur importance. Et vous verrez dans le bas le domaine lecture-écriture, qui est de loin le plus important. Tout de suite avant la musique, puis le théâtre. Alors en clair, ce sont les projets culturels. Et plus foncé, ce sont les ateliers artistiques. Alors vous verrez qu'en lecture-écriture, il y a peu d'ateliers et beaucoup de projets. Et alors qu'en théâtre, c'est mieux équilibré. Alors pourquoi ? Parce que l'atelier est une action qui est proposée sur 3 ans, qui est plutôt triennale. Donc c'est une action qui s'inscrit davantage dans la durée et qui est offerte à des élèves volontaires, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Tandis que le projet culturel est plus limité. C'est un projet d'un an et souvent une équipe éducative plus réduite. Et vous comprendrez que des ateliers d'écriture, par exemple, c'est vrai que c'est un peu plus pratique de proposer ça à un groupe classe, par exemple, ou à un groupe réduit. Donc, ils sont plus nombreux dans cette colonne. Ceci dit, le domaine reste le plus important dans l'académie. En plus de ces financements que vous avez vus, la DAC propose des soutiens financiers à des associations, en particulier à l'APA. C'est comme ça que se construit notre partenariat. Et en gros, les financements qui sont donnés à ces associations arrivent à 20 000 euros. Et en plus de cela, dans notre budget toujours action culturelle, il faut ajouter la prise en charge des services éducatifs. Alors, services éducatifs, ce sont des enseignants qui sont détachés, parfois 2 heures, parfois 3 heures, parfois jusqu'à un mi-temps, dans des structures culturelles, des musées, mais aussi des bibliothèques ou auprès de compagnies théâtrales. Alors, ces enseignants ont pour charge l'accueil des élèves, bien sûr, mais aussi de proposer des activités, par exemple, à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, des ateliers d'écriture, participer au montage d'expositions, etc. Donc, ce sont de vrais projets aussi qui se font en partenariat avec les musées ou avec les structures et les enseignants qui désirent faire participer leurs élèves. Alors, là aussi, ça a un coût, comme vous pouvez le voir. Alors, le coût ici, c'est une traduction en euros d'heures supplémentaires, à vrai dire, qui sont payées aux enseignants qui s'engagent dans ces activités. Alors, ce que cela traduit, une volonté, donc, on va dire, académique et rectorale, un souci d'aménagement du territoire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un élève des Hautes-Alpes ait autant de chances d'accéder à l'ouverture culturelle qu'un élève d'Aix-en-Provence. Harmonisation entre les différents départements, chez nous c'est important, privilégier l'apport culturel là où il est le moins présent, à la fois géographiquement et socialement, j'allais dire, je pense aux banlieues de Marseille par exemple, favoriser l'expression artistique des élèves les plus démunis scolairement, ça veut dire que dans cet effort d'investissement que nous faisons, à projet égal, on va favoriser un établissement en zone défavorisée ou un lycée professionnel par rapport à certains lycées d'enseignement général. Les axes prioritaires, alors ce sont les axes qui nous permettent de faire le tri, parce qu'il est évident que dans tous les projets qui nous remontent, malgré l'investissement important que je vous ai présenté, nous ne pouvons pas répondre à tous ces projets, donc on est obligé de choisir, et parfois c'est très difficile, donc il y a quelques critères. L'un des critères, ce sont les priorités. Alors vous voyez que la maîtrise de la langue est le premier critère, ce qui explique que tout à l'heure dans le schéma, vous avez vu que c'était le domaine où il y avait le plus de projets. Ensuite, bon, le patrimoine, le chant choral, l'international et la culture scientifique et l'environnement. Autre exigence, la cohérence partenariale avec les différents partenaires institutionnels. Je vous ai expliqué qu'il y avait un réseau très compliqué qui passait par des conventions avec la DRAC, les collectivités territoriales. Simplement au niveau stratégique, il faut savoir que les conventions sont intéressantes dans la mesure où Si nous changeons de recteur, ce qui arrive un peu partout assez souvent, les conventions, elles, ne changeront pas. Donc les recteurs qui se succèdent sont obligés de respecter les engagements de leurs prédécesseurs. Et également, nous essayons d'avoir une cohérence avec les services internes de l'académie, ce qui n'est pas toujours très facile, c'est-à-dire la DAFIP qui s'occupe de la formation, la DARIC qui s'occupe de l'international, le CRDP, la documentation, et l'IUFM. Et vous savez comme moi que selon les académies, là aussi, les champs de compétences sont plus ou moins bien gardés entre toutes ces institutions. Alors là, j'en viens au cœur de notre propos, parce que j'étais peut-être un petit peu long sur ce cadre institutionnel. Il me semblait que c'était important de le connaître. Qu'est-ce que c'est que cette journée de l'autobiographie? Alors, elle existe, on va peut-être distribuer ce petit papier. Elle existe maintenant depuis l'an 2000, c'est-à-dire, si je calcule bien, ça fait 7 ans. Dans le cadre que je vous ai défini, donc partenariat avec des associations, j'ai eu le plaisir de rencontrer Françoise Lotte, qui est en train de distribuer les feuilles, qui est venue me présenter l'association pour l'autobiographie. Et nous, ça collait pile poil avec nos préoccupations de partenariat et de développer l'écrit et l'ouverture culturelle. Donc on s'est dit, cette année-là, l'APA proposait une journée sur le thème, justement, le déracinement qui devait se dérouler à Aix-en-Provence. Pourquoi pas inviter les élèves à produire des écrits autobiographiques sur ce thème du déracinement.
Tu permets que je fasse circuler ces deux cahiers pendant que tu dis
ça? Oui, c'est le...
C'est les deux derniers cahiers qui restent.
Alors, l'idée, c'était de profiter des dispositifs que j'ai énumérés tout à l'heure, par exemple les ateliers artistiques ou les projets culturels, qui sont des dispositifs partenariaux, hein, je répète là. Alors, le partenariat, c'est pas uniquement le partenariat avec l'APA, mais c'est inviter les enseignants et les équipes. Premier critère, les enseignants en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire, nous adressons pas qu'aux professeurs de lettres, nous invitons les enseignants à l'intérieur des établissements à se regrouper en équipe pédagogique, par exemple le prof d'art plastique, le prof d'histoire géo, pourquoi pas le prof de gym ou le prof de maths, on n'exclut personne, et de monter un projet ensemble et d'inviter un partenaire culturel qui leur conviendrait. Alors ça peut être un écrivain, un animateur d'atelier d'écriture, mais pourquoi pas un photographe, pourquoi pas un plasticien, pourquoi pas un cuisinier, puisque cette année on va travailler sur la nourriture. On va faire venir travailler avec quelqu'un, avec un spécialiste bien sûr ou un artiste. Ensuite, il s'agit d'amener les élèves à produire. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la production, et une production qui ne soit ni la production sauvage dont vous parlez, Marie-Claude Pandoula, hier, ni la production, organisée à l'intérieur de la classe, comme on vient de le voir. Il s'agit là d'une production, disons, qui est tournée vers l'artistique, on va dire, vers la recherche du projet artistique, et en même temps vers, bien sûr, l'expression de soi. L'idée, c'était double. D'abord, valoriser cette production, parce que nous pensons que plus on valorise les productions des élèves, et plus ils ont envie, évidemment, de produire, et plus ils se sentent confortés, bien sûr, dans leur identité et dans leur estime de soi. Donc ça, c'est un des objectifs importants. Donc l'idée ici, c'était d'apporter cette valorisation, d'une part par une publication qu'on va vous distribuer, une publication annuelle de ces travaux d'élèves, qui sont d'ailleurs des travaux, pas uniquement des travaux d'écriture, mais on travaille beaucoup, vous allez voir, l'image, parfois même le théâtre, la vidéo, le cinéma, enfin, t'es ouvert à toutes les productions. Et deuxièmement, de matérialiser également ces productions par une rencontre. C'est-à-dire que tous les élèves qui ont travaillé sur ce thème-là se rencontrent au cours d'une journée un petit peu festive qu'on leur offre, ça aussi ça a un coût, et qu'ils puissent échanger, présenter leurs travaux. Et ce qui est intéressant, c'est que on touche à tous les niveaux, sauf le premier degré. C'est-à-dire on s'adresse au collège et lycée, et éventuellement classe post-bac. C'est-à-dire, ce même jour, se rencontrent des élèves de SEGPA, c'est-à-dire des élèves qui ont un niveau de, on va dire, un niveau premier degré un petit peu attardé, des élèves en difficulté, parfois qui sont dans une situation d'illettrisme, et on va jusqu'à des élèves de BTS ou de première littéraire. Et ces élèves, finalement, confrontent leur production, et on s'aperçoit qu'il y a de la qualité partout. Il y a de la qualité partout et qu'il y a aussi du respect entre eux. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent la qualité chez les tout-petits ou chez les primo-arrivants, aussi bien que chez les élèves de classe littéraire qui devraient être un petit peu les spécialistes. Je vais vous faire passer également comment se fait la mise en place de cette opération dans le calendrier et dans les objectifs, et puis ensuite je laisserai la parole à Françoise qui va, elle, détailler la dernière journée que nous avons organisée, qui va vous présenter dans le détail toutes les productions. Dans le document donc qui circule, vous verrez que l'écriture autobiographique dans notre programme d'action culturelle est donc une action partenariale très complexe. C'est l'Académie d'Aix-Marseille, l'APA, la DRAC qui finance les intervenants dans les ateliers, la ville d'Aix qui met à disposition les matériels, mais aussi les éclairagistes, tous les techniciens, etc., l'ensemble de la Cité du Livre, et toutes les collectivités territoriales. On va voir comment, par exemple, les conseils généraux interviennent lorsque les enseignants n'ont pas choisi de répondre à notre appel à projet en rentrant dans un dispositif financé, mais parfois on a des profs, par exemple, en cours d'année qui nous appellent, qui nous disent « ça m'intéresse, moi je travaille avec ma classe, je suis toute seule ou je suis tout seul, j'ai rien prévu pour déplacer mes élèves, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Mais dans ce cas-là, les conseils généraux, les collectivités territoriales viennent à notre aide également. Alors, le calendrier, au mois de mai, on lance les appels à projets, c'est-à-dire Philippe Lejeune nous dit cette année, on a envie de parler de la nourriture, par exemple, c'est le cas cette année, on propose ce thème-là. En 2005, c'était l'autoportrait. En juin, les établissements nous font remonter les dispositifs qu'ils ont choisis, par exemple leur projet d'atelier, de projet culturel, de classe APAC, ce qu'ils ont choisi, les intervenants qui les intéressent, le type de projet qu'ils veulent mettre en place, du théâtre, de l'écriture, du cinéma, de la photographie ou des collages, enfin tout est ouvert. En septembre, ces projets-là sont évalués et expertisé à la fois par la DRAC, par les conseillers techniques de la DRAC et les responsables de domaine, et ils sont validés selon les critères que je vous ai exposés. Pendant tout le premier trimestre, nous recensons l'ensemble de ces actions qui sont soit dans les dispositifs, soit hors dispositif, puisque tout le monde peut nous rejoindre à n'importe quel moment. Et Françoise, essentiellement, se charge du suivi des projets, de rencontrer les équipes et d'essayer de voir un petit peu dans quel sens ils travaillent. Éventuellement, leur proposer des intervenants s'ils n'en ont pas ou de changer d'intervenant lorsqu'ils tombent en panne, etc. Dans le cours du deuxième trimestre, on propose, alors ça c'est important, un module de formation. C'est-à-dire, il est inscrit au PAF un module qui s'appelle écriture autobiographique, auquel les enseignants sont invités à s'inscrire, surtout ceux qui sont dans cette démarche-là. Ce module se déroule en trois journées. Pendant deux journées, on propose aux enseignants tout simplement des ateliers d'écriture. Il n'y a pas du tout de théorie, hein, c'est simplement de la pratique. Ils se livrent à des exercices de façon à ce qu'ils se retrouvent eux-mêmes confrontés aux difficultés devant lesquelles ils mettent leurs propres élèves lorsqu'ils demandent d'écrire, que ce soit un sujet de rédaction ou que ce soit un travail comme on en a vu. Et là, il y a de grandes surprises parce que beaucoup d'enseignants se rendent compte qu'ils ne pratiquent pas du tout l'écriture et qu'ils demandent des choses terribles à leurs élèves. Et quand ils se sentent eux-mêmes sous la torture de l'exigence de la consigne, ils se rendent compte de ce que ça représente. Et beaucoup nous en remercient, a posteriori. Au début, ils sont tous très mal à l'aise, parce que quand ils arrivent, ils souhaitent qu'on leur donne ils veulent tout savoir sur l'autobiographie, ils veulent qu'on leur donne des fiches, qu'on leur propose des dispositifs comme vous les avez proposés, qu'on leur donne des trucs, quoi. Et puis on leur donne rien, au contraire, on leur dit, voyez comme c'est difficile et comme les élèves souffrent quand vous les faites produire. En général, ils en redemandent, puisqu'ils ont même demandé une troisième journée, alors qu'on n'en proposait que deux. Et le bouche à oreille fonctionne bien puisque ce sont des stages qui sont ouverts à 30 personnes et que cette année, par exemple, on avait 70 inscrits, donc on est obligé d'en refuser. La troisième journée qui existe depuis 2 ans maintenant, c'est une journée de cinéma autobiographique. C'est-à-dire, à la demande des gens, on a eu l'idée, et comme il y avait pas mal de productions qui utilisaient le cinéma, de faire appel à des spécialistes parce que nous n'en avions pas la compétence nous-mêmes, et qu'on a un partenaire qui est l'Institut de l'Image à Aix qui fonctionne bien, donc de proposer une journée de réflexion et aussi de pratique de manipulation sur le thème du cinéma autobiographique. Alors ne me demandez pas ce qui s'y fait, je n'y ai jamais assisté personnellement, je pourrais pas vous en donner les contenus. Le troisième trimestre donc est consacré, alors au deuxième trimestre également on fait une réunion où on réunit tous les enseignants, enfin tous les représentants des équipes enseignants, parce que ce sont toujours des équipes pluridisciplinaires, on tient à cela. Chacun vient présenter son projet et on voit comment on peut inscrire à partir de ces projets-là, comment on peut construire cette journée de l'autobiographie et comment on peut déjà préparer cette publication que vous avez entre les mains. Et enfin, au troisième trimestre, eh bien, il nous reste plus qu'à essayer d'orchestrer cette journée qui se tient traditionnellement à la Cité du Livre d'Aix-en-Provence. Donc là, on retrouve le partenariat avec la ville d'Aix qui met à disposition les locaux. Dans un premier temps, dans un grand amphi, les élèves viennent présenter leurs travaux dans leur diversité, du théâtre, des expositions, beaucoup d'expositions, des lectures, des films. J'ai oublié des...
Non, je crois
bon, de toute façon, vous verrez tout à l'heure, puisqu'on va rentrer dans le détail. À titre d'info, comment sont financées ces opérations? Je reviens toujours au problème du coût, excusez-moi si ça vous paraît un peu obsessionnel. Donc, tout ça est financé à travers les dispositifs que je vous ai décrits tout à l'heure, mais également pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route et qui sont hors dispositif, donc ils bénéficient des aides des collectivités territoriales, grâce aux conventions que nous avons donc, et également de l'aide directe de l'APA. C'est-à-dire dans la mesure où nous subventionnons l'APA, l'APA peut à ce moment-là de se permettre, elle, de subventionner, de payer par exemple le transport des élèves, etc., ou tel intervenant dans un établissement. Donc vous voyez, le circuit est ainsi fermé. Quant au matériel, c'est-à-dire la salle, le matériel vidéo, tout ce qu'il faut louer, acheter, etc., eh bien c'est la ville d'Aix, qui, parce qu'on a une convention avec elle, qui le met gratuitement à nos dispositions. Si j'insiste là-dessus, c'est pour vous dire que c'est quand même un montage très laborieux. Disons que pour arriver à ce résultat, ça fait ce sont des années de travail pied à pied sur le terrain. Les participants maintenant. Alors, chaque année, on a environ une dizaine d'établissements qui participent à l'opération et des établissements qui tournent, des établissements de l'ensemble de l'académie. Sauf que là, dans ce qu'on on va vous présenter l'année dernière, il s'est trouvé un hasard bizarre, c'est que on s'est retrouvé pratiquement qu'avec des établissements du département des Bouches-du-Rhône. Mais sachez que c'est pas le cas habituel, c'était exceptionnel. Donc, 10 établissements de l'ensemble de l'académie, soit environ 200 à 300 élèves. Ce qui veut dire qu'on est loin du cadre qui vous est présenté tout à l'heure, où on avait une trentaine d'élèves, une expérience très intéressante, très enrichissante. Là, on touche, nous, plutôt à une opération académique. Ce qu'on veut, c'est, au cours des années, qu'il y ait le maximum d'élèves qui puissent participer à ce type d'action. Des collèges, des lycées professionnels, des lycées d'enseignement général, des SECPA, des primo-arrivants. Alors, on tient beaucoup à cette diversité, en particulier les primo-arrivants. Puisque vous verrez tout à l'heure que dans le lien lecture-écriture, pour des élèves illettrés, forcément, puisqu'ils ne possèdent pas le code de notre langue, souvent, en commençant par la production écrite, paradoxalement, ils se mettent à lire et à avoir envie de lire et à améliorer leurs compétences en lecture. On y reviendra tout à l'heure. Les objectifs. Alors, les objectifs de cette manifestation et de toute cette opération. Alors bien sûr, on a les objectifs attendus, le premier étant la maîtrise de la langue, bien sûr, je m'y étendrai pas, le lien lecture-écriture, vous voyez bien que c'est écriture-lecture, je fais exprès d'inverser, et non pas lecture-écriture, c'est-à-dire c'est ce que je vous exposais tout à l'heure, et vous verrez que dans un collège qui s'appelle Vallon des Pins, qui est un collège de la banlieue nord de Marseille, qui est un collège qui accueille en majorité des élèves comoréens ou des élèves africains, souvent dans des situations effroyables, c'est-à-dire sans papier, etc. Si on les voit apparaître, disparaître, etc. Dans ce collège-là, qui depuis 7 ans est dans nos dispositifs, on a pu avoir un retour sur plusieurs années. Et on s'est rendu compte que le nombre d'élèves qui réussissaient à s'intégrer au système scolaire dans les années suivantes était bien plus important parmi ceux qui ont participé à ces ateliers que ceux qui n'y étaient pas. Alors il n'y a peut-être pas une relation de cause à effet aussi forte, mais il est évident que ces élèves qui ont été amenés à produire de l'écrit dès le début, et vous verrez de l'écrit de qualité, eh bien, sont des élèves qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie de lire. Voilà. Le lien avec les enseignements et les programmes, alors ça aussi c'est une évidence, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des difficultés des professeurs de collège et des professeurs de lycée, justement à faire fonctionner à la fois une expérimentation pédagogique et les exigences du programme, des séquences, etc. Donc c'est vrai que là, il y a une ouverture qui peut permettre cette articulation. Deuxième objectif, bien sûr, l'ouverture culturelle, la transdisciplinarité, le décloisonnement. Ouverture culturelle, c'est-à-dire apprendre à travailler avec des personnes extérieures à l'école et s'intéresser à ce qu'ils font et les intéresser à ce qu'on fait. La transdisciplinarité, c'est à l'intérieur d'un établissement apprendre aux gens à travailler ensemble, c'est-à-dire que le prof de gym ou le prof d'art plastique ce soit pas un ovni par rapport au prof de lettres ou au prof de maths, et que on peut faire des projets ensemble. Et enfin, le décloisonnement entre les cycles, cette manifestation, comme je vous l'ai dit, on a des élèves de primaire, on a des élèves de BTS, et finalement, ce sont des gens qui ont produit et qui partagent le même plaisir à la création. Et enfin, la territorialité, j'y reviens pas, c'est toujours cette idée d'harmoniser l'ensemble de l'académie. La troisième série d'objectifs, alors, ça c'est ceux auxquels je tiens le plus, c'est-à-dire pourquoi l'écriture autobiographique est dans cette ouverture culturelle et qu'est-ce que ça peut apporter aux élèves. Alors bien sûr, ce qui est au centre de tout ça, c'est l'élève, producteur. Mémoire, identité, citoyenneté. Alors là aussi, toutes les évaluations qu'on a pu apprécier nous montrent que et en particulier la première année quand on a travaillé sur les racines, que le travail de mémoire est, je parle de la mémoire individuelle, la mémoire familiale et aussi la mémoire identitaire, celle qui permet de se reconnaître dans une société. Donc ça on s'aperçoit que c'est quelque chose d'important dans la construction et dans l'éducation, hein, dans la conscience de soi. L'identité, ça va de soi également, l'identité en tant que personne qui existe, qui est capable de dire « je », d'écrire « je » et de s'affirmer, et on s'aperçoit que beaucoup d'élèves ont du mal à dire « je », hein, au départ, ils préfèrent parler de quelqu'un d'autre. Et enfin, la citoyenneté qui est là aussi pour nous, c'est tout à fait évident. C'est-à-dire un élève qui prend conscience en soi, un élève qui a plaisir à dire je et qui a une certaine fierté à produire quelque chose, eh bien, il va pas taguer l'établissement, il va pas casser les tables, il va essayer d'être de se sentir en harmonie avec le groupe. Et l'apprentissage de la citoyenneté, on en est persuadé, nous, il commence par cette conscience de soi et cette image de soi, cette construction de l'image de soi. D'où image de soi, intégration dans l'institution et dans la société. Bon, là, je veux pas me lancer dans un prêche, je crois que tout le monde est convaincu. Je vais laisser la parole à Françoise et on va essayer de trouver le diaporama.
Je vais... j'ai 20 cahiers.
Comment ?
Dans tes dernières phrases, tu as dit que ça allait du primaire à la terminale, il n'y a pas, il n'y a pas là.
Les SEGPA. Les SEGPA sont des élèves de primaire.
Ah, d'accord. Cette année, on a un exemple, on a un exemple de quatrième, et ensuite, nous allons jusqu'où, comme ça ?
Oui. Si tu veux voir le diaporama.
Je le regarde là.
Alors,
non, Il n'y a pas de lycée agricole.
Pour une raison très simple, c'est que les lycées agricoles ne dépendent pas de l'éducation nationale. Alors, on est en train d'essayer de les intégrer. Lycée agricole et lycée militaire, on a un lycée militaire aussi. Alors, ce sont des lycées qui, pour l'instant, ont été exclus tout simplement parce que les financements à l'éducation nationale, on ne peut pas les verser, les lycées agricoles dépendant du ministère de l'Agriculture. On est en train de travailler dessus.
Alors, vous avez sous les yeux la couverture qui indique que le résultat du partenariat, le titre de la manifestation, l'autoportrait. En bas, les 10 établissements qui sont venus le 24 mai dans l'amphithéâtre de la Cité du Livre. Et nous n'avons pas cette année accueilli tous les élèves comme nous l'avions fait il y a 2 ans. Philippe s'en souvient, ça avait été une joyeuse confusion. Donc il y avait 10 établissements cette année, mais on avait demandé aux professeurs de trouver dans leur classe des élèves qui soient les porte-parole de leurs camarades pour limiter le nombre de participants et qu'il y ait une meilleure écoute. Et c'est ce qui s'est produit. Il y avait quand même à peu près 120 élèves dans l'amphithéâtre et ça nous paraît un bon chiffre. La couverture est empruntée, est une image qui est empruntée au travail du lycée Colbert. Et c'est le premier que je vous demande, la première.
Non, on a le sommaire.
Ah, le sommaire vous donne les pages où sont présentés les travaux des dix établissements. Et on a insisté pour que les professeurs veuillent bien nous donner une préface où ils expliquent comment ils ont travaillé. Et c'est quelque chose que nous aimerions voir entrer dans les habitudes, c'est que depuis ces temps que nous faisons ces cahiers, nous nous rendons compte que les professeurs, est-ce que je peux dire, manquent un peu de confiance en eux et n'osent pas dire, enfin n'aiment pas raconter ce qu'ils ont fait, et je dirais presque s'abritent derrière leurs élèves. Et c'est la première fois dans ce cahier que je trouve des préfaces écrites avec conviction et confiance par les professeurs, par certains professeurs du moins. Alors le premier, le lycée professionnel, Colbert à Marseille, c'est une classe de bac des métiers de la mode et de la création, un projet artistique et culturel, c'est-à-dire un professeur de lettres qui a travaillé avec tous ses élèves et qui s'est fait aider du professeur d'art plastique de l'établissement, qui a travaillé avec le professeur d'art plastique de l'établissement et qui a fait venir de l'extérieur une plasticienne pour mettre en scène, en quelque sorte, ce qui a été fait dans l'année.
C'est une classe à Pâques, hein. Classe à Pâques, pas un projet culturel. C'est le dispositif classe à Pâques, classe à projet artistique et culturel.
C'est ça, oui. D'accord. Ah, c'est le projet. Oui, d'accord.
Oui, c'est pas un projet culturel, c'est une classe à Pâques. Bon, c'est encore.
D'accord.
Excuse-moi.
Non, mais je me perds dans les sigles. C'est ce que je voulais dire. Et pour travailler sur l'autobiographie, elle a demandé à ses élèves de lire La Robe Bleue, qui est une autobiographie, qui est une biographie fictive de Camille Claudel. Et puis, à partir de cette lecture, elle a demandé des exercices autour de le thème de la robe, et à la fois pour le matériau, elle a demandé des exercices d'écriture autour de l'étamine et autour des robes que les élèves ont aimées ou n'ont pas aimées ou ont eu envie de porter, etc. Et puis ils ont choisi des phrases dans ces textes, et dit-elle, c'est là que ça a commencé à devenir vivant. Ils ont construit des robes, parce que la construction d'une robe est le but et l'épreuve finale, est une des épreuves de fin d'année.
pour avoir le diplôme des métiers de la mode. Donc la robe qu'il devait créer pour la fin de l'année a été faite de papier sur lequel les élèves ont calligraphié les phrases qu'elles sélectionnaient dans les textes qu'elles avaient écrits autour de leur autoportrait. Ça ne se voyait pas bien pendant le défilé, mais quand on voyait de près les papiers, elles ont ensuite étudié les drapés, un peu en fonction du graphisme de ce qu'elles avaient écrit. Et si vous regardez à la page 6, vous avez donc les...
C'est celle qui est sur l'écran. Hein.
C'est celle qui est sur l'écran, voilà. L'écriture sur le papier et puis les élèves qui composent et qui froissent le papier en fonction de ce qu'elles ont envie de faire. Et tournez la page, page 8, vous voyez que de temps en temps, elles ont aussi écrit avec les pieds et qu'il y a eu une espèce de jeu. L'atmosphère toute l'année a été particulièrement joyeuse pendant ce travail scolaire.
Ce qui est intéressant ici, c'est de voir justement d'abord le lien avec les enseignements, puisqu'on est dans une classe de métier de la mode où justement le travail, ça consiste à confectionner des robes. Le projet pédagogique qui est de faire lire une biographie de Camille Claudel autour de la robe bleue, et le projet d'artiste qui est de concevoir un lien entre l'écriture et la création de la robe. Donc on est tout à fait ici dans cette ouverture culturelle que j'essayais de vous décrire tout à l'heure. Avec en plus une espèce de jubilation, parce que ces élèves ont travaillé vraiment avec un plaisir qui se voyait.
Et parmi les collaborateurs du professeur, il y a eu aussi à la fin un comédien d'une petite compagnie marseillaise qui a aidé les élèves à circuler sur la scène pour présenter leur robe et donner un peu de panache à la présentation de leur travail le jour de la manifestation.
Alors ces créations étaient éphémères parce qu'elles étaient en papier.
Mais elles sont allées les présenter en Italie et elles sont invitées, je crois, en Allemagne cette année. Et elles recommencent. Je ne sais pas quelle robe elles vont nous faire autour de la nourriture. On aura peut-être des robes avec des feuilles de poireaux, je ne sais pas. Le collège Thiers, c'est une équipe qui travaille hors temps scolaire. C'est un atelier de pratique artistique. Le professeur leur a demandé d'écrire autour de leur autobiographie en sollicitant leur écriture par toutes sortes de techniques que vous connaissez, et puis de monter des textes avec des images et de choisir, d'illustrer en quelque sorte leur portrait. Et puis de composer des mail art, c'est-à-dire qu'ils se sont amusés à découper des enveloppes et j'ai reçu 24 enveloppes assez drôles dont vous avez le montage, un montage partiel, page 12 et 13. On a supprimé les adresses, mais...
La page 12 est projetée.
La page 12 est projetée, voilà, page 12 et 13. En même temps, avec un intervenant en cinéma, le professeur et les 24 élèves ont circulé dans le lycée Thiers pour y créer une sorte de parcours de l'élève et des réflexions que se font les enfants quand ils vont en classe. Mais évidemment, on ne pouvait pas rendre compte de ce film. Regardez le collège André Chénier. Vous avez un montage qui est un peu le même principe que la page précédente, que les mail art de la page précédente. 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Pardon. Regardez donc page 15.
10.
On m'a fait un prix 10. Françoise Philippe, qui vient d'un collège où elle a beaucoup travaillé avec les primo-arrivants, et elle a, dans le collège où elle venait d'être nommée, elle a pris en main un travail d'écriture avec ses élèves. Et vous voyez qu'elle tient à mettre en exergue, écrire en acrostiche. Tellement elle sait par expérience que des élèves en difficulté, on les amène à lire, à parler, en commençant par les faire écrire. Et elle est allée de l'écriture au dessin. Alors, il faut que je supprime les lectures de... vous voyez, ensuite, il y a une espèce d'anthologie des écrits des élèves. Il y a des coupures, mais vous aurez les cahiers si vous pourrez, vous pourrez les lire. Et puis, vous connaissez les exercices auxquels ils ont fait appel. Le collège Françoise Dolto, Delphine Imbert, a aussi travaillé seule dans sa classe, mais avec une espèce de... je pense que son profil est un peu celui de dont Madame Delahaye a parlé, dont vous avez parlé à la fin. Elle foisonne.
Elle sait tout faire. Oui.
Voilà. Et elle indique dans la préface les recours auxquels elle a eu les recours qu'elle a sollicités pour faire écrire ses élèves. Et la production a été très très riche. Vous voyez, on va jusqu'à la page 23. Le lycée professionnel Colbert, on l'a déjà vu tout à l'heure avec la robe bleue, dans une autre classe, un professeur de lettres est attiré par le théâtre et on n'a pas recopié les prénoms des élèves, mais vous auriez vu que c'était vraiment les mille coins de la planète. Et il a travaillé avec le professeur d'art plastique et ils sont partis d'un tableau, de l'analyse d'un tableau, la bataille de San Romano. Et pourquoi? Parce que il y a deux cités qui s'affrontent. Donc c'était quand ils ont construit la pièce de théâtre, ils ont d'abord laissé fuser toutes les insultes qu'ils peuvent se dire entre communautés très différentes, et ils les ont notées. Bon, ce qui a été une idée de départ de la pièce de théâtre, et ils ont joué sur le fait qu'ils revendiquaient leurs origines ethniques, et puis peu à peu ils devaient prendre conscience qu'ils ne s'écoutaient pas. Et la dernière partie de la pièce de théâtre était une espèce d'affirmation de leur identité. Ils étaient noirs, ils étaient jaunes, ils étaient blancs, ils étaient marseillais ou ils étaient jamaïcains, mais qu'ils s'écoutaient. Et donc, la bataille de San Romano n'a pas eu lieu. Mais en même temps, le professeur d'art plastique leur a fait, si vous voyez sur les images, dessiner leur autoportrait. C'est pas clair. Il n'y avait pas d'image. Les images ne sont pas bien sorties. Mais si vous voyez les fanions, c'est à la fois le symbole de la guerre, c'est aussi l'identité de l'élève qui s'est représenté comme s'il portait un écusson. Et puis, il y a l'origine du pays. On ne s'en rend pas bien compte. Mais pour les élèves, c'était assez satisfaisant de porter sur cette bannière toutes sortes de symboles. Le collège de l'Estaque, il circule là deux cahiers qui datent de 2000, et le collège de l'Estaque participe à nos manifestations depuis cette époque-là. J'insiste là-dessus parce que vous voyez que c'est un professeur d'histoire qui travaille dans un milieu très très difficile, et elle a l'habitude de demander aux élèves de parler de leurs origines, de faire parler leur famille. Et il y a des arbres généalogiques que les élèves font soigneusement, avec ou sans plaisir. Vous voyez qu'il y en a quelquefois qui sont barrés de noir. Bon, ça ne fait rien. Elle travaille sur l'origine, et à partir de là, avec le professeur de français, l'écriture se fait avec plus de plaisir. Mais elle ne le fait pas dans le cadre de la classe. Elle le fait avec des volontaires de 4e et de 3e.
C'est un atelier, là.
C'est un atelier. Et cette année, elle voulait composer une pièce de théâtre à partir d'enquêtes des élèves, et avec l'autorisation des parents, elle m'a donné les textes des enquêtes où les élèves allaient interroger leurs parents, leurs grands-parents, et donnaient leurs origines. Et puis, tirer de ces textes une pièce de théâtre où les enfants parlent d'eux a été difficile et confus. Donc, je ne donne pas le, on n'a pas donné le dialogue tout à fait faible qui a résulté de ce travail préparatoire qui a été fait avec beaucoup de sérieux.
Oui, ça veut dire que tous les projets n'aboutissent pas, mais ils sont intéressants quand même. Un projet inabouti, c'est pas forcément un échec, comme vous pouvez le voir là.
On arrive au lycée professionnel Léo, et ce sont deux classes de CAP, coiffure et pressing. Et le professeur de lettres fait appel à la documentaliste et à une animatrice d'atelier d'écriture. Et elles travaillent toutes les trois ensemble sur ces deux classes dont je viens de parler. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de signature sur les extraits qui sont reproduits ici, c'est parce que les élèves étaient en examen et qui se sont... Deux d'entre elles seulement qui étaient libres cette matinée-là, qui sont venues lire ce qu'avaient écrit les autres. Voilà. Et vous avez des montages également de travaux, de textes et d'images simultanées. Le Collège Vallon des Pins est aussi un de nos plus fidèles participants.
Et notre chouchou. Hein.
C'est celui qui est spécialisé dans l'accueil des primo-arrivants et des enfants qui ne savent pas le français. Et page 39, je vous lis le quatrième paragraphe de la page 39. Fait marquant pour tous, en cours d'année, Chetana, un jeune Sri Lankais, nous a rejoint à l'atelier. Il a très vite compris les consignes qui lui étaient quand même traduites en anglais. Il a commencé par écrire en anglais. Il tenait à lire ses textes qui étaient ensuite traduits en français pour tous et il les réécrivait en français. Il a tenu à participer à la journée de l'autobiographie, à parler en français avec l'aide et le soutien d'un de ses copains. Pour tous, ce moment a été très particulier, un mélange de fierté et de joie partagée. Et je crois que Marie-France a... Marie-Claude, pardon, a lu l'histoire de Samira ou, l'année dernière, qui est... Marie-Hélène.
Après avoir assisté à cette présentation avec Saint-Provence, j'ai demandé à Martine Tridon.
Voilà.
Je voudrais rajouter simplement quelques détails sur cet établissement que je connais bien pour vous montrer dans quel climat quand même se fait ce travail. C'est un des établissements de la région marseillaise qui a le plus de problèmes de violence. Il faut savoir par exemple qu'un enseignant de 5e me racontait que dans sa classe, les élèves étaient très fatigués le matin parce que des élèves de 5e se prostituaient pendant la nuit et venaient en cours le matin. Pour expliquer les fables de La Fontaine ou les récits de la France d'Odet, ça tombe un petit peu à plat. Donc il faut dire qu'il y a ce climat-là quand même dans l'établissement. Je ne veux pas généraliser, c'est pas toutes les classes qui se déroulent comme ça. Enfin, c'est un établissement où pratiquement 80 à 90% de la population est d'origine émigrée, très, très nouvellement arrivée. Hein, c'est une des zones de Marseille qui accueille en particulier les Comoriens. Où il y a beaucoup de drogue, de prostitution, de problèmes énormes. La cité qui jouxte l'établissement, les médecins n'y viennent pas la nuit, la police n'y vient pas la nuit parce qu'ils sont caillassés, etc. Donc voilà dans quelle atmosphère ça se déroule. Et quand on voit la qualité et l'émotion qui se dégage de ces textes, vraiment, on dit chapeau aux équipes et à tout le monde. Quoi. C'est vraiment, quand je disais c'était notre établissement chouchou, c'est pas pour rien.
On arrive à la page 42-43.
C'est ça, hein ?
Oui.
Le collège Malrieux. Et c'est un professeur qui travaille à aider les élèves à se présenter, à prendre conscience de leur goût pour bâtir un projet, une espèce de projet d'avenir en fin d'année, probablement dans l'idée d'une orientation relativement rapide à la fin de la troisième. Et vous avez là, je vous le lirai, j'ai pas le temps, j'aurais bien aimé vous lire quelques extraits. Il y en a. C'était très riche.
Et cette enseignante travaille également sur les blogs. Et je crois qu'elle fait faire des blogs à ses élèves. Et elle s'inscrit dans cette pratique. C'est Marie-Claude Panlou, je crois, qui disait que les enseignants gagneraient peut-être à essayer de rentrer dans ces langages, etc. Mais c'est ce que fait cette enseignante-là.
Et finalement, voilà le lycée Latécoère. Et c'est un professeur de physique-chimie passionné de photos qui a travaillé avec une classe de BTS. Et il les a fait travailler sur l'autoportrait. Il les a amenés à faire leur propre portrait en utilisant le déclencheur à retardement. Et l'assistante sociale du lycée s'est ensuite entretenue avec les élèves et les a fait parler sur eux-mêmes. Et en face de chaque image, il y avait le propos de l'élève, sur le commentaire de l'élève, sur lui-même. Mais l'équivalence, il y a plus d'images, si vous voulez, que de textes. Donc, on ne savait pas où il en manquait, quoi. Donc, vous avez d'un côté les textes et de l'autre, les photos qu'ont pris les élèves d'eux-mêmes.
J'ajouterais que le format de ces photographies, le format poster, hein, c'était présenté sous forme de poster. Et la qualité de ces photographies était tout à fait exceptionnelle, hein. Elle était vraiment digne d'une exposition de professionnels.
Alors voilà, c'est ce que disent les professeurs, c'est que ça donne une dynamique de travailler sur un thème avec des intervenants, le plus souvent avec des intervenants extérieurs, et que les élèves ne refusent pas l'idée de se produire en public parce que, disent-ils, ils se sentent anonymes devant une grande salle où les visages ne sont pas individualisés, beaucoup plus que dans leur propre classe. Ils se sentent mieux protégés dans cette espèce d'écoute d'un monde, d'un public qu'ils ne connaissent pas, que quand ils sont en face de leurs 20 ou 25 camarades. Et ils ne refusent pas du tout, au contraire, ça leur plaît. Et ils laissent accrocher leurs dessins et... Ils sont contents de voir l'exposition. Et au début, le pari était qu'on donnait un cahier par élève. On a tenu le pari 3 ans, mais là, on ne peut pas.
Alors ça, c'est une grande fierté pour les élèves d'avoir cette publication, qui est une très belle publication, hein, je dois dire. Une fierté de savoir que c'est diffusé, que ça va se retrouver dans des bibliothèques, ça va être conservé et que leur production est valorisée comme ça. Et c'est une fierté aussi pour les familles, pour les parents, hein, c'est vraiment un moment très important.
Voilà.